Bonjour mes amis, comment allez-vous en ce 23 septembre 2015? Cette fois-ci, c'est vrai, c'est le premier jour de l'automne, même si la température ne nous donne absolument pas l'indication que c'est l'automne. Le ciel est bleu, bleu, bleu. Il fait chaud, là, moi-même. D'ailleurs, je suis en train de vous parler. Je pense que je vais laisser tomber une petite couche parce que quelle chaleur. Oui, non, 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 ne rêve pas, Mathieu Tessier. Vous écoutez Clotilde Seille et les voix de service. Alors, dans cette première demi-heure d'émission, je vais éplucher pour vous deux journaux, en l'occurrence le Journal de Montréal et Le Devoir. Au milieu de tout cela, je vais recevoir Christiane Campagna et sa nouvelle virale. Parmi les sujets traités, Dracula à la Croix-Rouge, ça on parle de l'ONU et des Saoudiens aussi. On parle du pitbull. Le pitbull, c'est une arme, dit Lise Ravary. Et puis également, une leçon d'ouverture à Québec pour M. Harper. C'est un avis, c'est dans un éditorial dans Le Devoir. Et puis un médecin dissident qui rentre au bercail. Mais pour le moment, en ce 23 septembre 2015, je salue mon petit camarade Mathieu Tessier. Bonjour Mathieu.
Bonjour Clotilde.
Alors qu'est-ce que ça nous évoque ce 23 septembre comme souvenir?
C'est la journée nationale du refus de l'échec scolaire aujourd'hui et la journée de la bisexualité.
Ah, OK! Excusez-moi, il m'est venu quelque chose en tête, mais ça, je ne pouvais pas le dire. Alors, vous m'avez dit en premier le
Journée nationale du refus de l'échec scolaire.
Refus de l'échec scolaire.
Voilà.
Et qu'est-ce que ça cache et qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça, on ne saura jamais, c'est pas grave. Bon, sinon, 23 septembre... On fête des gens?
En fait, oui. L'empereur romain Auguste est né le 23 septembre, ainsi que Ray Charles, Romy Schneider et Bruce Springsteen sont nés le 23 septembre et sont décédés. Ils nous ont quittés le Gilles Latulippe.
Oui. C'était l'an dernier ou il y a deux
en
ans?
En 2014.
C'était l'an dernier.
Donc. Exact. Bon. Pablo Neruda, le chanteur et comédien français Bourvil.
Vous
m'enlevez les mots de la bouche. Simone Freud et Louis-Joseph Papineau.
Faites-moi Bourvil.
Non, absolument pas. j'ai aucun talent pour l'imitation.
Non, Freud aussi, alors, est parti un 23 septembre.
Et Prévert avait dit un 23 septembre, « Comme cela nous semblerait flou, inconsistant et inquiétant une tête de vivant s'il n'y avait pas une tête de mort dedans. »
Oh!
C'est beau, hein?
C'est beau. Merci, M. Prévert, et merci, M. Tessier. Alors, c'est avec le Journal de Montréal que je commence ce matin. Il faut varier les plaisirs, c'est important. Dans le journal, donc à la une, on nous dit que pour le Canadien, c'est un départ à oublier. Notre ami Kevin Breton, dans à peu près 2 heures, à 11 heures, si vous nous écoutez en direct, nous en parlera certainement. Et on voit le visage de Gilles Carle. Et pourquoi ce lapsus? Parce que figurez-vous que le corps de Gilles Carle va être déterré. Sa dépouille sera rapatriée à l'île verte par les soins de son ex-compagne Chloé Sainte-Marie. Et c'est parce que c'est ce qu'il avait demandé. Alors elle s'est battue, Chloé Sainte-Marie, pour parvenir à ce résultat. À la télé québécoise, il manque de diversité. Celle qui s'exprime ainsi, c'est Isabelle Racicot, qui trouve que, vous savez, il y a eu le soir des Gémeaux, il y avait les Émis de l'autre côté, et c'est Viola Davis, qui est une femme noire, qui a remporté un Emmy Award et qui a dit comment se fait-il qu'il n'y a pas assez, qu'on ne voit pas tellement de noirs à la télévision, on n'est pas représenté du tout. Et Mme Racicot dit la même chose au Québec. Je vous lirai ça, beaucoup plus tard dans l'émission. Peut-être nous aurez-vous quitté, peut-être serez-vous encore là, peut-être, je ne sais pas, parce que 3 heures d'émission, c'est quand même assez long. Donc ce sera vers 11h30 par là que je vous parlerai de cela. Mais le gros titre, parce que ce n'est pas ça le gros titre, le gros titre du journal ce matin, c'est « Femme de mafioso ». Qui serait une femme de mafioso qui serait liée à 4 garderies. Évidemment, ça fait des ordres et les parents sont inquiets. « Alors voilà, sa conjointe Chloé Sainte-Marie veut exaucer ses dernières volontés. Le corps du cinéaste Gilles Carle, enterré en 2009 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal, sera exhumé et transporté sur l'île Verte dans le Bas-Saint-Laurent le 24 octobre prochain, où il sera de nouveau mis en terre. C'était sa volonté. Dans son testament, il a dit « Je veux être enterré à l'île Verte », confie au journal sa conjointe durant près de 30 ans, Chloé Sainte-Marie, en marge d'une représentation de son spectacle à la Croisée des Silences à Gaspé. C'est après avoir consulté plusieurs de ses amis amérindiens que Mme Sainte-Marie a pris cette importante décision. C'est important que son corps et son esprit restent à Montréal parce qu'il a aimé cette ville aussi. Il fallait laisser reposer son esprit un moment et là, après 5 ans, il s'en vient dans son dernier campement sur la petite île, explique l'artiste. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Oh, j'ai plein de choses hein, dans le journal de Montréal. Je voudrais tout de suite aller en page 41. Pourquoi j'avais noté la page 41? On ne saura jamais parce que préparer ça... Ah, je sais, non, c'est parce que c'est un article que je voudrais recommander à mon amie Isabelle Falardeau qui vient nous parler d'économie. Et il y a aujourd'hui dans le journal de Montréal un excellent papier qui s'intitule « Préparer sa retraite à 50 000 $ par année ». Et je lui ai donc suggéré, c'est pour ça que j'avais noté page 41, mais ça n'a rien à voir. Alors, je vais maintenant revenir en arrière et je vais me rendre à la page, à la célèbre page 6, célèbre parce que c'est la page de Richard Martineau qui signe ce matin un papier qui s'intitule « Dracula à la Croix-Rouge ». Alors il écrit « Vous connaissez le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est la plus importante organisation de défense des droits de l'homme dans le monde. Le siège de cet organisme, créé en 2006, est situé à Genève, en Suisse. Avant-hier, le nouveau président du panel du Conseil des droits de l'ONU est entré en fonction. Son nom est Faisal bin Hassan Trad. Il est l'ambassadeur de l'Arabie saoudite aux Nations unies. » Et là, il dit, M. Martineau, c'est comme si on nommait Dracula à la tête de la Croix-Rouge. J'aime bien l'image quand même. « L'Arabie saoudite, bordel, dit Martineau. Qui va choisir les experts chargés d'observer et de rapporter les atteintes aux droits de l'homme dans le monde? Pour le compte de l'ONU, une organisation vouée à la défense de la paix, de la justice et de la liberté. Pincez-moi, je fais un cauchemar. » Il nous rappelle là l'affaire de M. Badawi, qui a été condamné, on le sait, à recevoir 1 000 coups de fouet. Et puis, comme l'a écrit d'ailleurs le collectif « Pas en mon nom », regroupant des musulmans luttant contre l'intégrisme et la barbarie, qui donc a pu juger à ce point superflu de hisser le respect de la dignité humaine au-dessus de toute considération idéologique, économique ou géopolitique, pour laisser infiltrer le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, un pays qui viole, jour après jour, les droits les plus élémentaires de l'être humain. Charles de Gaulle, nous rappelle M. Martineau, qui détestait copieusement l'ONU, aimait à dire que cet organisme était un machin, un bidule, un truc, une bureaucratie qui ne sert à rien et qui ne va nulle part. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au Conseil des droits de l'homme, on a tendance à lui donner raison. Le problème avec l'ONU est que tous les pays sont considérés comme égaux. La Chine, la France, le Yémen, l'Iran, le Canada, le Libéria, du pareil au même. Un pays, un vote. On a organisé une élection pour pourvoir un poste prestigieux et c'est ton pays qui a obtenu le plus de voix. C'est lui qui va occuper le poste convoité, même si 80% des nations qui ont appuyé la candidature sont infréquentables. À l'ONU, on ne fait pas la différence entre une démocratie, une dictature et une théocratie. Tous les pays s'équivalent. C'est le relativisme poussé à son point le plus farfelu, le plus débile, le plus dangereux. Toujours dans le journal de Montréal, Lise Ravary écrit « Un pitbull, c'est une arme ». Elle dit « J'aime les chiens. Trop peut-être. La grosse discipline militaire, le collier étrangleur avec des pics, non merci. Mais puisque je n'ai eu que des terriers, nains, des caniches miniatures, des bassets et des labradors, je n'ai jamais eu à gérer une crise d'agressivité canine autre qu'un refus de donner la baballe. Mais, et je sais que je vais recevoir des tomates pour cet aveu, je déteste les pitbulls. Comment peut-on vouloir chez soi un chien qui a 6 fois plus de chances de tuer une personne que toutes les autres races réunies? Avec sa sale gueule, quand son propriétaire n'affiche pas aussi une mine patibulaire, le pitbull est devenu un symbole d'hypermasculinité et d'agressivité affichée. un pied de nez baveux aux banlieusards qui prennent des marches dans le parc. Apprécié des gangs de rue, c'est devenu le chien officiel des marginaux criminels. Ces terroristes à quatre pattes, que plusieurs jurent être très gentils, constituent une menace pour la vie humaine et animale. On ne compte plus les attaques mortelles contre des humains et d'autres animaux de compagnie. En Californie, en 2013, une vieille dame est décédée de 200 morsures de pitbull. Il lui avait même arraché un bras. Elle prenait une marche après le souper quand il a sauté la clôture. Une petite fille de 8 ans, Vanessa, a été attaquée sans provocation par un pitbull à Brossard dimanche. Elle a eu la mâchoire broyée et a dû subir une intervention chirurgicale qui a duré 7 heures. Après l'incident, le maître s'est enfermé chez lui, il a refusé de parler aux policiers. Ce n'était pas la première fois qu'un de ces deux pitbulls passait à l'attaque, mais les voisins étaient trop effrayés pour se plaindre. Mais à chaque fois, j'entends le même discours, servi cette fois par le maire de Brossard, Paul Leduc. Le problème n'est pas le pitbull, mais le maître. Mal dressé, tous les chiens peuvent devenir agressifs, c'est vrai. Mais un Yorkshire terrier en beau joual vert inflige pas mal moins de dommages aux mollets qu'un pitbull à la mâchoire d'acier. Et puis quand un pitbull attaque, quel est l'intérêt de savoir si c'est la faute du maître ou de la bête? Le résultat est le même, des gens meurent ou sont gravement blessés. C'est pourquoi l'Ontario a interdit les pitbulls en 2005. Il y a quelques années, une amie m'avait demandé de m'occuper du chien de son fils pendant une semaine. J'ai eu tellement peur que je l'ai gardé enfermé dans sa cage 24 heures sur... Donc tous les jours, 7 jours sur 7. Sauf pour la promenade. Terrifiante. Elle, c'était une femelle, me regardait comme si j'étais un gros tibone juteux. Je ne l'ai su que plus tard. Le fils fréquentait un gang de rue et son chien avait été entraîné pour le combat et comme arme de dissuasion massive. Mais de là à faire du pitbull une victime... D'humains irresponsables, il y a un pas que je ne franchirai pas. Croire que le problème, c'est le maître et non le chien, c'est comme dire que ce sont les humains qui tuent et non pas les armes à feu. C'est de la boule, point de suspension. Ben, permettez-moi de vous dire, Madame Ravary, que je ne suis tellement pas d'accord avec vous. Parce que c'est vrai que c'est une arme. Et ils le savent bien que c'est une arme. Cela dit, ils pourraient entraîner un Golden Retriever et ils feraient les mêmes dommages. Ou un berger allemand, ils feraient les mêmes dégâts. Il ferait les mêmes dégâts qu'un pitbull. Moi, je le dis toujours, un pitbull qui sort du ventre de sa mère n'est pas plus dangereux qu'un caniche nain. Et j'ai déjà vu un caniche nain bouffer le doigt d'un vétérinaire. Lol. Puis j'aime mieux vous dire que c'est pas beau à voir. Alors oui, parce que, ben oui, vous qui avez un caniche nain, ouvrez donc lui la mâchoire tout de suite pour aller voir ses petites dents. Et vous allez voir, un caniche nain peut, je suis désolée de vous le dire, mais tuer un enfant. Un caniche nain qui s'attaque à un bébé et qui le prend au cou, là, c'est final.
Moi, je me suis fait mordre une seule fois et c'était par un caniche.
Absolument. Non, non, mais tous les chiens,
ça pas
je veux dire.
Non, mais je comprends. Quand même.
C'est pour ça que je ne serai jamais d'accord avec les gens qui, comme Madame Ravary, ne veulent pas reconnaître que le problème est à un bout de la laisse, certes, mais pas celui qu'on pense. Et là, je suis très fière de Christiane Campagna qui nous arrive avec une dernière heure. Donc, ça ne pouvait pas faire la une des journaux. Christiane, je vous laisse le soin de nous annoncer et de nous parler de cette bonne nouvelle.
Alors, voilà, le journaliste canadien Mohamed Fahmy gracié. Le président égyptien a gracié mercredi les deux journalistes de la chaîne Qatari Al Jazeera qui étaient emprisonnés, donc le Canadien Mohamed Fahmy et l'Égyptien Baher Mohamed, qui avait été condamné à 3 ans de prison fin août. Donc, c'était annoncé ce matin. Ils avaient arrêté parce qu'ils étaient accusés d'avoir soutenu à travers leur couverture médiatique les frères musulmans.
Oui, c'est ça. On se souvient bien de ça. On se souvient qu'il y avait un Australien, je ne sais plus, en tout cas, qui avait été, eux, tout de suite, ramenés dans leur foyer, mais il ne restait plus que M. Fahmy. Oui, rapatrié. Merci, je cherchais le terme.
Et il y a une avocate en droit international qui s'était beaucoup occupée de ce dossier, qui avait d'ailleurs beaucoup critiqué l'administration de M. Harper. Et ça m'a donné envie ce matin d'aller voir comment on parlait de cette brillante avocate sur les médias sociaux et sur Internet. Parce que Alamoudine, avocate britannique d'ascendance libanaise, née à Beyrouth, s'appelle maintenant Amal Clooney. N'est-ce pas? C'est la femme...
Oui, mais oui, parce que c'est ça, je me disais, où est-ce qu'elle veut en venir?
Femme de George Clooney. Et depuis qu'elle est la femme de George Clooney, pour bien des gens, elle n'est que ça.
C'est épouvantable, hein? Tout d'un coup,
Il y a même Associated Press qui a été fort critiquée récemment pour avoir formulé son tweet ainsi en disant « Amal Clooney, actor's wife, représentant les journalistes d'Al Jazeera, blablabla. » Il y a quelqu'un qui a vraiment repris le tweet que j'ai vu passer à tout, qui l'a barré, qui a fait « avocate des droits de l'homme ».
Oui, c'est ça. Mais oui, c'est toujours la même histoire. Parce que là, on a toujours l'impression que nous, les femmes, on radote avec ça. Mais bon sang de bonsoir, tant qu'on radote, c'est parce que ça existe. Sinon, on radoterait pas. Moi, je veux dire, je suis pas féministe, j'ai pas ma carte, j'ai pas mes... Hein?
Il y a un compte Twitter qui s'appelle Amal Clooney Style, qui est là que pour souligner le beau linge qu'elle porte. Et il y a vraiment un tweet où on voit une photo où elle se rend en prison aux Maldives pour rencontrer un prisonnier politique. Et à côté, le modèle de la robe qu'elle portait à ce moment-là.
Mais elle s'exprime pas?
Ben quand elle s'exprime, c'est ici j'ai deux contrastes, là, deux tweets avec des photos, un où on la voit très sérieuse. Quand elle s'exprime, c'est pour parler de ses dossiers.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Donc on la voit parler à l'ONU du fait qu'il faut se préoccuper de la répression aux Maldives. Et l'autre tweet juste au-dessus parce que j'ai fait une recherche avec son nom, dit partout où elle va, Amal Clooney est élégante. George peut être fier. C'est juste de ça qu'il est fier. Je veux dire, il est plus jeune George. Il en a fréquenté des starlettes dans sa vie. C'est la première fois qu'il choisit de la marier. Peut-être qu'il y avait plus que le look.
Exactement. Je veux dire, c'est pas le dernier des imbéciles non plus, Clooney. Et il sait bien aussi tout ce qu'elle a fait, cette femme-là. Il s'avère qu'en plus, elle est belle, elle est formidable, elle a du fric. Elle peut se looker comme une princesse. Très bien. Mais enfin, ce qu'elle fait, c'est quand même d'abord... Enfin, bref. On est toutes d'accord. Alors, je vais pas me péter un plomb toute seule, quand même.
On Google son nom. Oui. Amal Clooney Style, Most Stylish Looks, Most Stunning Looks... j'ai ajouté avocate, ça n'a pas changé grand-chose. Je suis tombée sur Amal Clooney, l'avocate la mieux lookée au monde.
Incroyable.
Parce que Google, l'algorithme de Google nous met les résultats probablement les plus souvent cliqués.
Alors, exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et je vous invite à écouter la suite de l'émission parce qu'on va rester dans le même domaine grâce à Francine Pelletier qui n'hésite pas, elle aussi, à se mettre de l'avant, à mettre les femmes de l'avant. Et pour les bonnes raisons, Seigneur Dieu, et pas seulement pour les robes et pour les ongles bleus. Et je ne sais pas pourquoi je dis les ongles bleus, parce que ça vient de me venir à l'esprit. Mais comme j'arrive au devoir, je vais commencer par ce papier de Francine Pelletier ce matin. Francine Pelletier qui écrit dans Le Devoir « Les femmes constituent 54% de la population et 47% de la force du travail. Elles sont non seulement majoritaires sur les bancs d'école, elles sont également premières de classe. Elles sont en train de transformer certaines professions, comme la médecine, à leur image. Elles sont de grandes consommatrices de culture et votent également davantage que les hommes. 500 000 de votes excédentaires féminins en 2011. Elles sont visibles et engagées. Personne aujourd'hui n'oserait dire, à l'exception peut-être de Donald Trump, que les femmes ne sont pas bienvenues dans toutes les sphères de la société. Alors, c'est la question qu'elle pose, Mme Pelletier, ce matin. Pourquoi sommes-nous toujours à quémander notre espace sur la place publique? Pourquoi, malgré des progrès incontestables, sommes-nous toujours invisibles? La foire d'empoigne entre les trois principaux leaders masculins lors du dernier débat des chefs sur l'économie en disait long à cet égard. Alors que les hommes se coltaillaient à qui mieux, la seule femme chef, bien meilleure débatteuse en passant que certains de ses vis-à-vis masculins, était réduite à égrener son chapelet de tweets pour rappeler qu'elle existe, elle aussi. Les femmes, c'est un peu comme le bilinguisme au Canada, dit Francine Pelletier. Tout le monde est d'accord, mais de là à le mettre en pratique, faudra repasser. L'idée de tenir un débat des femmes pour la deuxième fois en plus de 30 ans est née de l'indignation de groupes de femmes de ne pas voir leurs préoccupations reflétées dans le discours politique. Bien entendu, la question des femmes n'est pas seule à avoir été occultée lors de ce marathon électoral. L'environnement, les autochtones, le développement durable, l'international n'ont pas trouvé preneur non plus, mis à part les boniments d'usage. Mais aucune de ces questions n'a tout à fait le poids de celle des femmes, si ce n'est que les enjeux du moment, l'économie, la classe moyenne, les familles, les garderies, la crise des réfugiés, sont tous des sujets qui touchent éminemment les femmes. Seulement, sans que ce soit dit nommément, ce qui contribue à gommer les problèmes que les femmes vivent. L'idée de tenir un débat, dit Francine Pelletier, qui s'est mutée en série d'entrevues, faute de volontaires, voulait remédier à cette lacune. Le classique « tu sais bien que je t'aime », en d'autres mots, ne suffit plus. Les femmes veulent des déclarations plus pointues et mieux senties. Depuis 30 ans, Et c'est sa conclusion. Nous fonctionnons sur l'hypothèse que nous avons cassé le coup du sexisme grâce à nos lois, notre vigilance et notre bonne volonté. Il ne resterait que les vestiges qui prennent toujours un peu plus de temps. C'était sans tenir compte de ce sexisme nouveau, né en réaction au féminisme. Il faut de toute urgence, le prendre beaucoup plus au sérieux, sans quoi les femmes seront condamnées à faire du surplace pour plus longtemps encore. La caricature de M. Garnotte ce matin, M. Coiteux est dans le bureau de M. Harper. Il est en train de montrer une Volkswagen en photo à M. Harper et il lui dit « Oh, voilà des innocentes victimes de leurs dirigeants !» Les voitures, donc, elles sont des milliers à dériver en pleine mer, entassées sur des navires et à être refusées aux frontières. Et Harper qui se met les deux mains sur son cœur et qui dit « Ça fend le cœur !» Le Canada se doit de leur accorder le statut de réfugié. Et à ce sujet, dans son éditorial, Bernard Descoteaux écrit ce matin « Crise migratoire, leçon d'ouverture ». Le gouvernement du Premier ministre Stephen Harper a revu sa position sur l'accueil de réfugiés syriens. Sous la pression, il a accepté d'accélérer le traitement des demandes de réfugiés sans pour autant augmenter leur nombre. Pourtant, les Canadiens et les Québécois sont prêts à faire plus, comme le démontre l'engagement exceptionnel que prend la ville de Québec. Cette décision du gouvernement conservateur n'a pas été adoptée spontanément ni de bon cœur. Elle survient 3 semaines après que le Canada a pris conscience de la gravité de la crise migratoire. 3 semaines durant lesquelles l'inaction d'Ottawa a été dénoncée à pleine page de journaux. Se limiter dans les circonstances à devancer de 18 mois l'accueil d'un groupe de 10 000 réfugiés n'est rien d'autre qu'une demi-mesure arrêtée sur la base d'intérêts partisans. La stratégie est limpide, elle consiste d'abord à verser une once de compassion avec cette promesse que les 10 000 réfugiés qui devaient être accueillis d'ici la fin de 2018 l'auront tous été à la fin de 2016. Ce souci humanitaire n'étant pas universellement partagé, le gouvernement Harper a accompagné sa manifestation de compassion d'une série de bémols pour faire droit à cet autre souci qu'est la sécurité. À ceux qui craignent que l'arrivée massive de réfugiés permette à des terroristes d'infiltrer le Canada, on les rassure en insistant 2 fois plutôt qu'une sur le maintien des vérifications de sécurité et d'antécédents judiciaires et médicaux des demandeurs d'asile. En cette matière, il s'agit de mettre l'accent à la bonne place, dit M. Descoteaux, comme l'a si bien fait ce lundi le maire de Québec, Régis Labeaume, qui se prépare à accueillir dans sa ville quelques 800 réfugiés syriens au cours de la prochaine année. M. Labeaume qui a dit « Je dis aux citoyens qui s'inquiètent d'ouvrir votre cœur, cessez d'avoir peur, on prend toutes les mesures ». La réaction de Régis Labeaume à la crise migratoire est une leçon d'ouverture qui montre qu'en matière d'accueil de réfugiés, tout est d'abord affaire de volonté et d'engagement qui ne sont surtout pas passagers. La ville de Québec n'est pas à sa première expérience en ce domaine. Elle sait qu'après l'accueil, il faudra trouver du travail à ces nouveaux arrivants et les intégrer à la vie de la communauté. D'autres villes, d'autres régions font aussi preuve de la même ouverture que visiblement à Ottawa, on aime mieux ne pas voir pour des raisons peu avouables. Un petit mot sur la une du Devoir ce matin. On nous présente en photo Jean Leloup, Louis-Jean Cormier et le pape. Jean Leloup et Louis-Jean Cormier, évidemment, parce qu'ils sont nominés à... Ils sont nommés, devrais-je dire, pardon, à la disque. C'est eux qui reçoivent le plus de nominations, même s'ils ne sont que nommés. Et aux États-Unis, c'est la visite papale historique aux thèmes explosifs. Sinon, le niqab, source de discorde, le port du voile intégral divise les chefs des partis et des électeurs. Je vais en parler à l'instant. L'Union européenne parvient à un accord difficile en ce qui concerne la crise migratoire et un médecin dissident rentre au Bercail. On se souvient de Vincent Demers qui avait quitté la RAMQ avec fracas pour le privé. C'était en janvier dernier, alors que le milieu de la santé était à feu et à sang. Ce médecin, Vincent Demers, annonçait avec fracas qu'il quittait le réseau public. Sa dissidence était un message politique, une réponse au mépris du ministre de la Santé, Gaëtan Barrette. Eh bien, quelques mois plus tard, il rentre au Bercail en disant « Il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée ». Ce sont ses premiers mots. Le malaise qu'il a vécu, c'est lorsqu'il s'apercevait que ses patients devaient débourser à nouveau pour ses services. C'est ce malaise qui l'a précipité, qui a précipité sa décision de revenir au public. Je trouvais que le fait de faire payer les gens, même si c'est volontaire, même si ce sont eux qui viennent à moi, causait une entrave encore plus grande que toutes les barrières bureaucratiques du ministre Barrette. Et c'est un moindre mal. Alors, je vous le disais, ça fait la une du Devoir. Le niqab est source de discorde. Thomas Mulcair s'était fait discret sur la question du niqab. Eh bien, maintenant, il s'oppose à l'interdiction du voile intégral aux cérémonies de citoyenneté et rejetterait un projet de loi en ce sens. Monsieur Justin Trudeau est du même avis. Le chef libéral a fait valoir que personne au pays ne lui avait parlé de cette question et il dénonce ses propositions de Stephen Harper, de Gilles Duceppe, en matière de division et de peur. Qu'adviendrait-il si la loi conservatrice ne réussissait pas le test des tribunaux? Gilles Duceppe, lui, serait pour le nonobstant. Si jamais une telle loi contrevenait à la Charte canadienne des droits et libertés, car la clause dérogatoire permettant de l'outrepasser a été prévue justement pour faire face à des situations semblables, a fait valoir le chef bloquiste. Stephen Harper, lui, a évité de s'avancer aussi loin, évitant soigneusement de répondre à la question. Le chef conservateur s'est plutôt dit convaincu que nous avons la position correcte. Ça reflète nos valeurs et l'égalité des hommes et des femmes au Canada. La clause dérogatoire n'a été utilisée qu'à une seule reprise par Québec pour maintenir la charte de la langue française. C'est un fait, dit Mme Cornelier. Le niqab dérange, choque même la majorité des citoyens. Le proscrire en certaines circonstances a beaucoup d'adeptes. Cérémonie d'assermentation des citoyens, exercice du droit de vote, offre de services publics, voilà qui est matière à débat. Mais, demande-t-elle, peut-on le faire sans prendre en otage la poignée de femmes qui portent le voile intégral? Perdu tout ce qu'on... céleste.
Chanson qui s'appelle Destin, c'est une nouveauté.
Mais encore une qui chante comme Lisa Leblanc, ça n'a pas de bon sens.
Elle vient du même coin.
Elle vient du même coin, mais attends, c'est la troisième. Sophia Nolin, Lisa Leblanc, Céleste.
Il y a du beau monde dans ce coin-là.
Mais oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Mais pourquoi elles chantent toutes pareilles? Est-ce qu'on pourrait ouvrir le micro de ma petite camarade? Stéphanie, qu'est-ce que vous disiez?
Je disais un lieu, une voix.
Un lieu, une voix, ben là, ça ressemble à ça, mes amis. Bonjour Stéphanie Balthazar.
Bonjour, Platine.
Nous sommes toutes les deux aujourd'hui.
Oui.
Je voudrais faire un petit coucou, un petit bonjour à Louise, si elle nous écoute, qui n'a pas pu, pour des raisons de santé, se déplacer ce matin et venir vers vous et vers nous. Et croyez bien qu'elle en est complètement désolée. Bon rétablissement, Louise. Alors, je suis donc ce matin avec Stéphanie Balthazar, à qui oui. Je vais souhaiter la bienvenue. J'adore ça, et vous?
Oui.
Je ne sais pas, je me transforme instantanément en canard.
C'est un air sympathique.
En tout ce que vous voulez. Stéphanie, je rappelle que vous êtes passionnée, il faut dire, d'environnement, d'écologie. C'est vrai, vous êtes très, très, très à cheval aussi. J'imagine que vous compostez, vous, et tout ça. Et là, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie parce que comme vous êtes toute seule avec moi, vous allez pouvoir nous lire toutes sortes de beaux articles que vous avez trouvés sur des sujets environnementaux, entre autres. On commence, en gros, vous allez nous parler de quoi d'abord pendant cette heure-là?
Moi, je suis une positiviste convaincue.
Oui.
Donc, je sais que c'est... Il y a perpétuellement des mauvaises nouvelles, l'environnement, la Terre se réchauffe, etc. Mm-hmm. Mais j'aime bien mettre l'accent sur les choses que l'on peut faire, être le changement qu'on veut voir dans le monde et puis les alternatives, les propositions qui sont offertes par divers organismes pour essayer d'améliorer notre quotidien. Alors, aujourd'hui, évidemment, je vous parle de recyclage. Hydro-Québec a un super beau programme pour remplacer les frigos à moindre coût. On va parler aussi de voitures électriques, de consommation électrique, mm-hmm. puis des remorques vélo. Moi, j'en ai vu beaucoup cet été.
Oui!
Oui, puis j'ai un super article là-dessus.
Dont les gens qui déménagent, qui font carrément des déménagements. Puis moi, j'en ai vécu un en direct.
Non, pas vrai.
Oui, j'avais une amie qui a utilisé ce service-là. Ils étaient juste trois, deux gars et une fille. Il faut les voir. Ils remplissent la carriole au pouce près et puis ils sont costauds. Allez, hop, et puis on y va en vélo. Puis là, ils reviennent. C'est pas moins cher. Mais enfin, en tout cas, j'ai hâte que vous nous en parliez. J'ai hâte. Excusez-moi. La passion.
Alors, j'y vais. Parfait.
Allez, on y va.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le journal Bel Âge, c'est un journal qui est généralement gratuit, qui est dans l'entrée des caisses des jardins qui sont dans mon quartier. J'habite Rosemont. Donc, le journal du Bel Âge, l'édition d'octobre 2015. Sur le babillard, il y a un article qui s'appelle « Recyclage payant ». Donc, je vous fais la lecture. Mm-hmm. « Un ami ou un membre de votre famille vous a sûrement déjà demandé de recueillir les languettes ou goupilles des canettes de boissons gazeuses, de bière ou de jus pour une bonne cause. » Alors, c'est difficile de savoir où et quand ce type de cueillette a commencé, mais il semble que les résultats soient là. Alors, comment ça fonctionne? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ils ramassaient les languettes dans les classes.
Mais oui, c'est vrai.
C'est ça, c'est un vieux truc, mais c'est vrai qu'on ne sait pas d'où ça vient. Alors, en consultant Internet, on apprend que de simples individus ont eu l'idée un jour de ramasser ces languettes pour aider des personnes handicapées. Elles établissent des points de dépôt ou créent un réseau d'approvisionnement, puis les revendent au poids à un récupérateur qui les recycle. Il faut environ 22 000 languettes pour faire un kilo, selon M. Reynald Arsenault, qui les recueille pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. L'argent versé permet d'acheter des jouets aux enfants, en pédiatrie ou différents équipements spécialisés pour les prématurés. L'idée a fait son chemin et s'est répandue. Ainsi, il existe aussi un programme de recyclage de languettes au profit du manoir Ronald McDonald de Montréal. L'argent sert au budget opérationnel. On s'informe au 514-731-2871. Mais le spécialiste en cueillette de languettes de canette est sans doute M. Clermont Bonenfant, qui, à la suite d'un grave accident de moto en 1986, alors qu'il n'avait que 24 ans, s'est promis d'aider les autres. Mm-hmm. Un autre jeune homme lui a donné l'idée de récolter des languettes. Déterminé, il en a à ce jour assez amassé pour acheter, attention, plus de 100 fauteuils roulants et une dizaine de fauteuils motorisés à autant de personnes qui ont ainsi vu leur qualité de vie améliorée. Imaginez le nombre de languettes, pardon.
Mais merci à ce petit journal-là
de
parler
de ça.
Voilà. Quand est-ce qu'on lit ça dans les journaux? Moi, je suis tellement contente. Je vous remercie infiniment, Stéphanie. Je vous laisse poursuivre.
Ben oui, puis je termine avec une super bonne nouvelle. C'est que cet homme-là, M. Bonenfant, a reçu le prix du gouverneur général pour l'entraide. C'est
ben
super.
Oui. Ben oui, absolument.
Puis il a mis sur pied la Fondation Clermont Bonenfant. Donc, languette de canette au pluriel, Fondation CB. Vous allez sur Google, vous tapez ça, vous allez pouvoir voir les œuvres de ce merveilleux
homme. On va le répéter, tout doucement peut-être, pour que les gens se le mettent bien en tête. Languette
de canette, languette et canette au pluriel, petit trait, Fondation CB. Weebly.com.
Weebly?
Weebly, c'est comme tous les trucs de blog.
OK.
Ouais.
Et ça s'écrit comment, ça?
Weebly.
Ben, voyez-vous, moi, il faut me le dire parce que vraiment, je l'ignorais complètement.
Ah, ben non, ça va. Ben, c'est pour ça que je dis toujours sur Google.
J'aime. Allez, un autre. De quoi nous parlez-vous? Voulez-vous que je prenne le relais? J'ai un petit papier là que j'ai ici, fort intéressant et qui nous intéresse en premier chef. Dans la presse d'aujourd'hui, on a reçu l'édition 2016 des guides réunions et congrès du Québec. Et là, vous vous demandez où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je veux en venir à la page 31 où l'on parle de voyages d'affaires à mobilité réduite.
Oh.
Vous me suivez? Les congressistes, et c'est Samuel Larochelle qui écrit, les congressistes à mobilité réduite sont parfois confrontés à une série d'obstacles. Chambres inaccessibles ou peu adaptées, salles de réunion mal aménagées, manque de moyens de transport adaptés. Mais pourtant, leur situation ne cesse de s'améliorer, semble-t-il. Il existe encore des aberrations, comme un établissement possédant une rampe d'accès et une porte qui ouvre à l'envers. Mais la conscientisation est de plus en plus grande, souligne Steve Gagné, président de l'Association des professionnels de congrès du Québec. D'un simple point de vue d'affaires, les centres qui accueillent des réunions professionnelles ont intérêt à tenir compte de cette clientèle aux besoins particuliers. Selon l'Institut de la statistique du Québec, la province comptait plus de 561 000 personnes actives à mobilité réduite en février 2015. Soit 8,7% de la population. Il faut à tout prix que je donne ce papier-là à l'ami Kevin Breton. Non, mais je suis contente qu'on parle en chiffres, parce que lorsqu'on pense encore que les gens à mobilité réduite dérangent du monde,
oui.
Attendez, il y en a plus de 500 000
oui.
au Québec qui sont actifs, là.
Oui.
Qui ne vivent pas chez eux, là, qui sont actifs et qui travaillent.
Oui.
Et pourtant, ils dérangent. Et pourtant, c'est quand même 5% de la population, si je ne m'abuse, un petit peu. Mais c'est énorme.
Oui, c'est énorme.
C'est fou. Michael Walkings, le porte-parole à l'Office des personnes handicapées du Québec, confirme que le milieu du tourisme d'affaires a compris l'importance des personnes handicapées. Les activités d'affaires se déroulent le plus souvent dans de grands hôtels et des centres de congrès qui offrent des services adéquats, semble-t-il, aux visiteurs handicapés. Ceux-ci ne sont pas à l'abri de situations irritantes, mais ils ont pas mal moins de risques de rencontrer les difficultés majeures que les touristes handicapés ordinaires. La tendance à organiser des événements d'affaires dans des lieux inusités peut toutefois compliquer les choses. Tenir un congrès, par exemple, dans une auberge bucolique avec une salle au deuxième étage, accessible seulement par un escalier en colimaçon, c'est peut-être charmant, hein, mais c'est plus complexe pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, rappelle M. Gagné. En tant qu'entreprise, il faut s'assurer que les infrastructures minimales sont en place, peu importe le lieu. Heureusement, plusieurs manoirs et lieux antiques ont été restaurés et adaptés. En effet, les rénovations et les nouvelles constructions sont assujetties à des réglementations sur l'accessibilité, c'est-à-dire des rampes d'accès, des ascenseurs, des portes à ouverture automatique et des chambres au niveau du plancher. Et le nombre de chambres adaptées également. Près de 70% des établissements modernes répondent aux normes actuelles, assure M. Steve Gagné. Ils peuvent accueillir à la fois les gens souffrant d'un handicap depuis la naissance ou un accident et ceux qui vieillissent et perdent une partie de leur mobilité. La technologie permet à des gens d'être de plus en plus autonomes. De plus, en vertu de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, les organismes publics comptant au moins 50 employés sont tenus de produire annuellement un plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Et parmi ces organismes, on retrouve l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, la Société du Centre des congrès de Québec et la Société du Palais des congrès, indique Michael Watkins. Ces trois organisations ont une influence certaine sur le milieu. En faisant des gestes en faveur de l'accessibilité, elles créent un effet d'entraînement. Cela n'empêche pas qu'il y ait encore des situations à problème dans de grands hôtels qui doivent à l'occasion être rappelés à l'ordre, mais ce sont des situations marginales. Permettez-moi de me lever le temps de ce petit et court instru et d'aller porter vite fait ce papier à l'ami Kevin Breton. C'est toujours les voies de service avec Clotilde Seil et pendant 7 heures, je suis en compagnie de Stéphanie Balthazar, oui. Passionnée d'environnement. Stéphanie, vous nous réservez quoi maintenant?
Alors, une petite brève avant de vous parler d'un autre sujet. Alors, on sait comment le plastique dans les océans est problématique. Il y a plusieurs personnes qui essaient justement de faire quelque chose avec ça. Donc, par exemple, on peut penser à la compagnie Maténat au Québec qui réutilise les bouteilles de plastique pour faire une espèce de faux cuir et ils font des sacs à dos absolument sublimes.
Wow.
Il y a beaucoup de gens, il y a des artistes qui essaient de faire des chandails avec du plastique recyclé.
Oui.
Donc là, moi, j'adhère à moitié.
Il y a même une compagnie de sport, je ne sais plus laquelle. Il y a une compagnie de sport qui utilise en ce moment uniquement du plastique. Je pense que c'est Adidas.
C'est ça que j'allais dire. Oui, alors
oh, génial.
Stéphanie,
je vous casse votre
cou.
Non,
du tout, au contraire, j'aime ça. Je vois que ça vous intéresse aussi.
Mais
alors,
oui, évidemment, ça m'intéresse, mais franchement, ferme-toi.
Mais non! Alors, je vous fais ça rapidement. Adidas crée une série de baskets avec des déchets plastiques des océans. Alors, ils aident à nettoyer les océans grâce à l'élaboration de chaussures en plastique recyclé. Alors, après les flacons de savon, les planches de surf, c'est au tour des chaussures. Pour aider à éradiquer les quelques 1000 milliards de plastiques qui polluent les océans, Adidas a créé un nouveau modèle de basket selon fastcoexist.com. Alors, la marque vient de sortir le prototype qui est entièrement tressé à l'aide de déchets. Alors, l'échantillon Adidas a été fabriqué à base de filets remontés à la surface par l'association à but non lucratif Sea Shepherd. C'était un filet de pêche qui gisait au fond de la mer, susceptible de tuer chaque poisson qui passait par là. Le fondateur de Parley for the Ocean, qui s'appelle Cyril Gutch, est un autre associé qui est soutenu par Adidas pour justement faire ces nouveaux souliers-là. Alors, le principal but de ce programme, c'est pas seulement de recycler du plastique pour en fabriquer des baskets, mais aussi d'aller contre le gaspillage, de faire un peu d'éducation, etc. J'avais trouvé l'article les inrocultibles, alors
c'est ça.
Puis, j'avais trouvé ça fascinant. Bravo Adidas, félicitations.
Ouais. Je sais qu'à un moment donné aussi, il y avait un organisme au Brésil qui avait trouvé le moyen, avec des produits recyclés, de faire des ballons de soccer. On sait combien les gens, bon là-bas, c'est une vraie passion, hein, le foot, parce que c'est comme ça qu'on dit. Le football. Mais c'est ça, ils avaient trouvé moyen, vu que les mômes dans les rues jouaient avec des boîtes de conserve, ils avaient trouvé le moyen de recycler je ne sais plus quelle matière pour en faire des ballons de foot. On aime ça, ce genre de nouvelles.
C'est cool,
Et dans le même genre, chère Stéphanie, vous allez être contente d'apprendre que ça, parce que c'est beaucoup plus près de chez nous, que la lutte contre la grille coûte moins cher à la ville. Je m'explique, ou plutôt c'est Camille Gaillard dans le Journal de Montréal qui nous dit que plutôt que de payer pour se débarrasser des frênes abattus de façon préventive comme c'était le cas dans les années passées, Montréal a eu l'idée de les vendre à l'encan afin de transformer les dépenses en profit. Je vous lis ça dans quelques secondes. Ratez pas ça. Alors voilà, donc ça nous dit que les trois quarts des 277 frênes abattus l'an dernier ont été vendus à l'encan, ce qui a permis de dégager un profit d'environ 3 000 $, explique fièrement Sophie Landreville, porte-parole de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. En 2014, la transformation en copeaux des frênes abattus avait coûté un petit peu plus de 22 000 $ à la ville. C'est quand même une dépense qui pourrait bien augmenter, puisque Montréal estime que d'ici 15 ans, plus de 200 000 frênes sont menacés d'être détruits par cet insecte. Mais, au-delà des chiffres, c'est le gaspillage d'une ressource noble qui inquiète Guillaume Couture, qui est ingénieur forestier au service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, et qui dit « La plupart des arbres abattus ne sont pas malades, mais se trouvent à moins de 300 mètres d'un frêne infesté et ne se qualifient pas pour des traitements d'injection. » C'est ce qu'il indique. C'est donc un bois de très bonne qualité et qui a une vraie valeur. Si Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce a été l'un des premiers arrondissements à vendre ses arbres publics, au moins 7 autres emboîteront le pas dès le 1er octobre prochain, date du début de la saison d'abattage. Quel est l'objectif? Revendre au moins un arbre sur 2. On va nous aussi commencer, parce que vous allez voir ce qu'ils vont en faire, c'est extraordinaire. On va nous aussi commencer la vente à l'encan cette année, car on prévoit abattre encore plus d'arbres que l'an dernier, affirme Marlène Ouellette, chargée de communication à Hohensick-Cartierville, un des deux arrondissements les plus touchés par la grille du frêne. Dans Rosemont-la-Petite-Patrie, on hésite encore à se lancer dans la vente d'arbres, mais l'arrondissement mettra sur pied, cette année, un projet d'ébénisterie. Pour la confection de mobilier urbain, en plus d'expérimenter la culture de champignons comestibles sur des frênes. Dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, le bois de frêne a déjà, entre autres, servi à faire des bancs. Et écoutez, j'en ai un sous les yeux, c'est absolument magnifique, je vous le montre. Alors évidemment, c'est très artistique, hein. c'est vraiment un banc sculpté, ça ne ressemble pas à un banc de jardin banal, c'est vraiment sculpté avec des formes, avec des reliefs, et c'est magnifique. Je poursuis donc, dans Côte-des-Neiges, c'est ça, Notre-Dame-de-Grâce, le bois de frêne a déjà entre autres servi à faire des bancs, un bateau voilier, une boîte à idées ou encore une remorque de travaux publics. Et enfin, merci au Chelaga Maisonneuve, espère cibler le marché de la construction avec le surplus de frênes abattus. C'est formidable, ça. On évalue aussi la possibilité d'en faire du plancher de bois franc, a indiqué Réal Ménard. Mais oui, pourquoi pas? C'est du bois pur, qui est le maire de l'arrondissement et responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts. Et j'ai été très contente de trouver ça ce matin même dans le Journal de Montréal. J'ai tout de suite pensé à vous, Stéphanie. Je me suis dit, que voilà une idée qui va réjouir notre voix de service, notre collaboratrice du mercredi matin. Stéphanie, c'est à vous.
Alors, je vais vous parler d'électroménager dans la maison. J'ai une mini-brève et un article un peu plus élaboré. Donc, j'y vais avec la mini-brève. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Drumi.
Non, pas du tout.
Alors, création canadienne d'une compagnie qui s'appelle Yirego, Y-I-R-E-G-O. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est composé à 40 % de matériaux recyclés et ça permet de réduire drastiquement la consommation d'eau et d'électricité. Je parle bien sûr d'une mini laveuse qui fonctionne sans électricité. Alors, ça ressemble à un mini R2-D2, je vous dirais que... C'est un mini R2-D2.
Je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire, bon, pour les gens qui ignoreraient à quoi ressemblait R2-D2, c'est vraiment rond. Hein, oui. Et le dessus également est rond. Hein,
c'est ça.
Donc, c'est vraiment une machine qui est faite tout en rondeur, si vous me permettez l'expression. Je suis une mini laveuse.
Mais ça ressemble, vous savez, comme les mini poubelles. Bref, des photos que j'ai vues, moi, je mesure 5 pieds 7 et ce truc-là m'arriverait un peu en bas de la hanche.
Oui, c'est vraiment pas gros.
C'est pas si gros que ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que
au lieu de brancher la mini-laveuse, c'est avec notre pied. Il y a une pédale, comme un type de pédalier, qui fait rouler une boule à l'intérieur. On ajoute de l'eau, on met nos vêtements, et puis la boule roule, finalement.
Comme
un petit hamster. Et nous, avec notre pied, tout ce qu'on fait, c'est appuyer. Ouais. Puis, après quelques minutes, il y a une trappe en dessous, l'eau coule, et puis voilà, vos vêtements sont lavés, suffit de les mettre. La machine...
Ça lave vraiment bien?
Ah ah! Ça, c'est ce qui est intéressant. Alors, ils ont gagné plein de prix de design, machin. C'est fait à Toronto. Et pour commander, il faut absolument aller sur le site Internet. En ce moment, ça se détaille à 150 $ canadiens. C'est 25 $ plus ou moins pour faire livrer à Montréal. Pourquoi je sais tout ça? Parce qu'évidemment, j'en ai acheté une.
Ben oui.
Et là, ils sont en production. Moi, je reçois la mienne au mois d'août l'année prochaine. Parce que le produit est tellement nouveau que, justement, ils ramassent l'argent maintenant.
OK.
Puis là, ils vont faire la production et ensuite, ils vont envoyer.
Vous en avez acheté, vous?
Oui, alors l'année prochaine, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Mais oui. J'ai bien hâte qu'elle arrive. Alors, sur une autre note,
oui.
Mon frigo est très vieux.
Oui.
Alors, c'est ça. Ma laveuse était trop vieille. J'ai acheté ça. Mon frigo est trop vieux. Et dans le journal du Bel Âge, j'ai trouvé un article qui est intéressant pour moi. J'espère que ça va vous intéresser aussi. Alors, on remplace le frigo, oui ou non? Les tarifs d'électricité ne cessent d'augmenter, mais quelques initiatives d'Hydro-Québec visent tout de même à aider les citoyens à baisser leurs factures. Bon point. Ainsi, le programme « Remplacement de frigo pour ménages à faible revenu » intéressera ceux dont le frigo principal a été fabriqué avant 2001. Alors moi, c'est mon cas, j'ai un vieux frigo chez nous qui est très chaud. Ce vieux réfrigérateur pourra en effet consommer jusqu'à 4,8 fois plus d'énergie qu'un appareil neuf homologué Energy Star. Alors, c'est ça, c'est énorme.
Mais c'est un secret bien gardé, ça.
C'est un secret très bien gardé.
Heureusement que vous êtes là.
Écoutez, moi, je suis très heureuse d'avoir vu ça. Hydro-Québec offre donc de le remplacer par un frigo neuf à un prix variant entre 75 $ et 120 $. Alors, évidemment, je suis allée voir sur Internet qu'est-ce qu'il en est. 75 $, on parle de 14 pieds carrés, avec le congélateur et la section principale séparées. Mm-hmm. Puis, un super beau frigo blanc, rien de plus compliqué que ça, mm-hmm. mais qui a l'air... sur le site Internet, ils sont absolument sublimes, neufs, bien faits.
Nickel, comme on dit.
16 pouces, c'est 95, puis je crois... en tout cas, quand on arrive à 18, là, c'est 120, tu sais, pour mm-hmm. une famille de mm-hmm. 4, j'imagine.
Oui, oui.
Pour participer au programme, vous devez être un ménage à faible revenu. Ce que j'ai vu sur le site Internet, un couple doit faire 35 000 et moins par année. Ouais. Puis, il faut envoyer l'avis de cotisation pour pouvoir prouver, évidemment, qu'on est à faible revenu. Être propriétaire d'un vieux frigo et être responsable de la facture d'électricité. Faites attention, le programme est offert jusqu'au 31 décembre de cette année. Pour y participer, on compose sans frais le 1-877-222-0809 ou évidemment sur le site internet hydroquebec.com, économiser l'énergie.
Ben merci encore de nous avoir parlé de ça. C'est quelque chose qu'il faudrait encore là envoyer peut-être à des journaux pour qu'on en parle un petit peu plus. Parce que tu sais, tout le monde dit que on parle pas de la pauvreté pendant les élections fédérales. Mais oui, mais voilà de quoi il faut parle aussi. Merci Stéphanie.
Ça fait plaisir.
Mais vous restez avec moi parce que vous n'allez pas m'abandonner maintenant. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble. Merci d'être là. Vous nous parler quand on va revenir dans quelques minutes, Stéphanie?
La philosophie zéro déchet.
Les barreaux de l'échelle. du jeu de serpents et d'échelles. Je voudrais pas, non, j'ai pas envie de faire le coq et de changer l'ampoule. Je veux pas changer l'ampoule, je vais laisser les papillons de nuit, beaux papillons de nuit, se brûler les ailes, se brûler les ailes. De gravir les échelons, les barreaux de l'échelle, du jeu des serpents et d'échelles. Je préfère rester en bas, rester nu-pied, tenir l'échelle, tout en bas de l'échelle. Je vais laisser les papillons de nuit, beaux papillons de nuit, se brûler des ailes. Vous regardez monter, au pire, je tuerai les serpents.
Ça s'appelle Mille Îles.
Mille Îles, là, ça s'appelle. En tout cas, c'était bref. On en a vite fait le tour de ces Mille Îles-là.
Mais oui, c'est fini.
C'est toujours Clotilde Seille et Stéphanie Balthazar à l'émission Les Voix de service sur Canal M qui se prolonge. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement parce que c'est le dada, c'est la passion de Stéphanie Balthazar. Et ma foi, elle en parle fort bien et elle nous déniche toujours un paquet d'articles qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et c'est très agréable. Alors là, vous nous amenez vers quoi, Stéphanie?
Une nouvelle mode qui est assez intéressante, que, évidemment, j'aime beaucoup et je suis allée fouiller là-dedans. Mm-hmm. On parle de la mode zéro déchet. C'est quand même, c'est assez poussé.
Oui, oui.
Moi, la première fois, j'ai vu zéro déchet, j'ai fait pardon. Mais félicitations à ceux qui sont capables de faire ça, parce que Alors, je vous dirais que la mode a commencé un peu avant, mais le livre de proue, si je peux le dire ainsi, Bea Johnson, une Française qui s'est mariée avec un Américain,
d'où son nom, a
publié un livre qui s'appelle carrément Zéro déchet. C'est chez les éditions Transcontinental. Alors, évidemment, moi, j'ai acheté le livre et ça raconte l'histoire incroyable d'une famille qui a réussi à limiter ses déchets à moins de 1 kg par an. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que, on s'entend que tout est emballé, tout est... Puis, j'avais déjà lu, il y a peut-être 5 ans, que la famille à David Suzuki, c'est la même chose. Ils ont peut-être un petit sac une fois par mois qui jette. Et je me disais, mais mon Dieu, comment ils font?
Comment ils font?
Alors, la philosophie zéro déchet, il y a 5 règles de base. On refuse, on réduit, on réutilise, on recycle et on composte. Alors, en ville, ça peut être compliqué de composter. Moi, dans mon quartier, il y a le compost depuis peut-être un an, donc je sais que certains quartiers ne l'ont pas. Ce que j'aime le plus, c'est refuser. Tous les trucs gratuits qu'on vous donne tout le temps, puis les factures, les machins, les trucs. Tu sais, des fois, on achète un truc, puis on n'a pas besoin de la facture. L'imprimez pas. On peut bloquer à la source. Alors, on commence par refuser les articles inutiles offerts, comme les stylos, les publicités, les gratuités, les autres trucs promotionnels de « Ah, prenez ça, mais j'en ai pas de besoin, j'en ai 22 chez moi. Je pense que j'ai pas payé pour un stylo depuis 10 ans. » Et puis, les produits
Est-ce
à usage...
Est-ce que vous en avez un, usez-vous? Parce qu'on en a...
Je le prendrais peut-être.
Mais c'est difficile.
Je dis pas que c'est facile. Hein?
Non, c'est sûr, c'est sûr.
Alors, il y a aussi les produits à usage unique. On parle de produits hygiéniques, vaisselle jetable, cosmétiques. Alors, produits hygiéniques, ça encore, tu sais, il faut être confortable avec le concept. Il y a beaucoup d'alternatives, mais ça reste que
C'est pas facile.
Il y a certaines personnes qui ont un blocage, puis je peux comprendre.
Ben oui.
Alors, les produits sur-emballés, on pense à l'épicerie, à quel point ça peut être aberrant des fois. Les produits de mauvaise qualité, on favorise les produits durables et de bonne qualité et on passe considérablement moins de temps au magasin à en acheter d'autres pour les remplacer. Alors, évidemment, on parle de je sais pas, je prends encore.
Mais oui, mais allez-y, parce que si vous vivez votre vie de façon très écologique au quotidien, pourquoi ne pas en parler? Je trouve qu'il y a tellement de gens qui parlent écologie et puis qui roule encore avec des grosses bagnoles. Je veux dire, il y en a. Hein.
Oui,
alors
oui,
bon,
oui.
Bah, j'aime mieux avoir quelqu'un devant moi qui voilà.
Moi, mon principal défaut, c'est les verres jetables. J'oublie toujours ma tasse réutilisable chez nous, non. Je vous dirais. Puis auparavant, je fumais. Alors, mes amis adoraient me rappeler que je fumais.
Ben oui.
Puis là, j'ai arrêté. Alors, gna gna.
Oui, c'est ça.
Je commence à gagner le combat. Mais je vous donne un exemple. Chez moi, j'ai un oreiller qui est fait avec des écales de sarrasin. Un tel oreiller, les acariens ne vont pas à l'intérieur. Ça peut durer, je vous dirais, entre 25, 30, 35 ans, avec du coton biologique, évidemment. Puis l'oreiller respire super bien, prend la forme de la tête. J'en avais un quand j'étais plus jeune, je m'en suis racheté un. Ça coûte un peu cher, je vous le concède, mais je l'ai pour
25 ans, 30
ans. Je l'ai pour 25 ans, 30 ans. Alors, tu sais, c'est de réfléchir, on achète une maison ou on loue un appartement?
Ouais,
est-ce qu'on investit?
C'est ça.
Alors... Puis, on vient se demander tout simplement, en ai-je vraiment besoin?
Oui.
Vais-je utiliser? Alors, c'est là où est-ce qu'on parle de réduire. La quantité de choses qu'on achète, est-ce qu'on a réellement besoin du dernier chandail à la mode avec, je ne sais pas, un visage de lapin, puis la saison d'avant, c'était un visage de panda?
Oui, oui, non, c'est sûr.
Alors, l'achat d'objets qu'on utilise rarement ou qu'on aurait pu facilement emprunter, comme les petits électroménagers de cuisine, les produits pour les gros ménages. Moi, par exemple, j'emprunte toujours la drill à un de mes amis parce que, premièrement, je n'ai pas l'espace chez moi. Puis, deuxièmement, il ne s'en sert pas tous les jours non plus.
Non,
donc,
c'est ça.
On peut partager ensemble. Et ensuite, on veut réutiliser les objets et contenants en leur trouvant d'autres utilités. Alors, le pot de margarine ou bon. Les fournitures de bureau qui traînent partout à la maison et au bureau. Alors, peut-être avoir un stylo qu'on peut juste changer l'encre à l'intérieur au lieu de toujours acheter... les objets en les réparant, ça, moi, j'adore ça.
Oui, hein?
Je répare des vieux trucs que je trouve sur la rue les jours des poubelles. Je désinfecte au vinaigre, puis je suis là avec
oui,
ma
c'est
petite
ça,
colle.
Parce...
Puis,
ah oui, parce que moi, j'ai toujours peur, ça. Tu sais, quand
je ramasse pas tout.
Non.
Et mon mari m'oblige à le laisser minimum 48 heures sur le balcon.
Ah, mais c'est
parce
une
que lui,
très bonne
il veut pas
chose.
Que ça rentre en dedans.
Mais non, ouais. C'est ça. Ah, mais il a raison.
Il a raison, mais je désinfecte aussi. Je désinfecte énormément. Et les gens sont quand même bien, en tout cas dans mon quartier, mettent toujours une affiche avec un autocollant. Ben écoutez, puce de lit où on n'est pas sûr. Ou, donc,
aïe, 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 il y en a qui.
Oui, je vous jure, ils mettent le papier dessus. Alors, si quelqu'un veut récupérer un meuble, puis là, il y a l'affiche.
C'est ça.
Puis, on y va avec recycler. Alors, tout ce qu'on est certain de pouvoir recycler. Mm-hmm. Et on finit par composter les restes de table, les cartons et autres contenants. Comme par exemple, les boîtes à pizza, on peut les composter. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais oui.
Même sale.
Oui. Et puis, moi, des fois, je vais chez des amis qui, dans leur quartier, n'ont pas de compost.
Non, c'est ça.
Puis, je ramène la boîte chez moi.
Ah oui, absolument.
Mais je suis un peu motivée.
Non, c'est vrai. Mais c'est vrai. En France, ils le savent, ça, tu sais, parce qu'ils compostent beaucoup plus qu'ici et ils recyclent. Moi, je n'en suis pas revenue. La dernière fois que je suis allée en France, c'est vraiment devenu... c'est-à-dire, sur chaque contenant, tout est toujours indiqué où il faut le mettre. Puis nous, ici, on lave, mais souvent, non, il n'y a pas besoin de laver. C'est pour ça que les boîtes de carton, oui, on peut les mettre au recyclage.
Exact.
Mais ça ne se sait pas.
Ouais.
Les gens pensent que si c'est sale, il ne faut pas le mettre. Mais oui, on peut mettre des... Tu sais, on n'est pas obligé de tout laver, ce n'est pas vrai.
Mais il y a un problème, je trouve, d'éducation de la part de ces organismes-là. Recycle Québec essaie de faire un super beau travail. Mm-hmm. J'ai souvent vu des campagnes, mais pour être... Si c'est moi, je n'avais pas cherché par moi-même.
Non.
Je crois qu'il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas. Justement, Hydro-Québec.
Ben oui.
Mais je veux dire, il y a tellement de gens qui ont besoin de ça. 50 % du Québec fait 20 000 $ par année et moins.
Exactement.
Alors, tu sais, juste ça.
Exactement.
Ou encore le compost. 40 % des déchets, c'est des restants de table que les gens pourraient composter.
Bien
puis,
sûr.
En tout cas, bref.
Oui,
on peut
non,
en parler
vous avez
longtemps.
Raison. Alors, on va revenir à votre papier ou est-ce qu'il...
C'est presque terminé.
D'accord.
Alors, en gros, je vous dirais, le livre « Zéro déchet » de Bea Johnson, évidemment, a fait un tollé. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. Pour l'avoir lu personnellement, il y a énormément de trucs. Je crois que ça prend du temps, de la patience. Par exemple, je sais qu'elle va à la boulangerie avec une taie d'oreiller et demande à avoir son pain dans la taie d'oreiller pour ne pas utiliser de sac en plastique. C'est quand même... c'est intéressant. Elle pourrait avoir un bout de tissu aussi ou carrément...
Bien, quand on avait un baluchon dans le temps.
Voilà.
La représentation... de celui qui voyageait avec
son baluchon.
Avec son baluchon, c'est-à-dire, c'était un bout de tissu qui était souvent un carreau, je veux dire. Je me rappelle dans les images, ce que j'ai bien en tête, c'est ça, mais c'était
fait en
tissu.
C'est de retourner à ça, c'est ça. C'est quoi qu'elle dit aussi? Eva, avec son pot Tupperware, ou bref, en plastique ou en vide, peu importe, elle va chez le fromager, puis il met son fromage directement là-dedans, au lieu d'avoir le papier et tout. Mm. Elle va chez le boucher avec un autre gros pot en plastique, puis quand les gens la regardent en voulant dire « ben qu'est-ce que vous faites? » Elle dit à tout le monde « Écoutez, moi, je n'ai pas de poubelle chez moi, alors mettez ça là-dedans. »
Mais quand même, que de bonnes idées. J'avais entendu, cela dit, pas pour me faire l'avocat du diable, mais j'avais entendu, par exemple, que dans certaines épiceries, ils se justifiaient d'emballer les produits avec 2, 3, 4 morceaux de plastique en disant qu'il y avait des gens qui ouvraient, entre autres, au sujet de la viande, qui ouvraient les paquets pour aller tâter la viande avec leurs doigts et tout. Et que c'est la raison pour laquelle, souvent, ils sont obligés, pour empêcher ça, de mettre plusieurs.
Oui, mais de retourner chez le boucher
qui coupe
devant nous.
Ah oui, non,
ça,
là, c'est
ça
sûr.
Ça évite cette étape-là.
Exactement.
Mais
exactement.
C'est intéressant ce que vous dites, des
exactement.
Gens qui
touchent. Ouais, ouais. Vous savez qu'en France, et on va finir là-dessus sur ce sujet, il y a les sacs en plastique, parce qu'ici, vous savez, il y a le truc des sacs en plastique, et puis il y en a qui ne veulent pas, et puis là, finalement, on nous les fait acheter 5 sous, mais c'est ridicule, parce que ça n'empêche rien. Si on les payait 5 $ il y aurait peut-être une différence, mais 5 sous, ça n'empêche rien. Et moi, la première, il m'arrive d'oublier, puis là, je m'en veux. Oh, j'ai oublié. Puis là, t'arrives à la caisse, puis t'étais sûre d'avoir...
Ouais.
Moi, j'ai toujours un sac. Et tu dis, c'est vrai, je l'ai sorti. Voulez-vous un sac en plastique? Ben oui. Puis là, oh madame, c'est juste 5 sous. C'est pas un problème.
C'est pas ça, oui.
C'est pas ça. Eh bien, en France, ils ont réglé le problème. Dans tous les magasins, il n'y en a plus aucun.
Oui, Madame Royale, c'est dit.
C'est ça. Autrement dit, si vous allez faire votre épicerie, que ce soit dans une épicerie normale ou dans une plus grosse épicerie, si vous arrivez à la caisse et que vous avez oublié, eh bien, vous êtes bon pour faire des allées et venues jusqu'à la voiture, pour transporter
génial.
Vos machins.
Génial.
Ah oui,
mais
non.
Ça responsabilise la personne, je veux dire.
Moralité, vous savez ce qui se refait beaucoup?
Allez-y.
Eh bien, on voit renaître des artisans de la vannerie qui fabriquent des paniers. Et
super.
On est en train de revoir fleurir ça en région, des gens qui se mettent à fabriquer ces petits paniers-là. Et du coup, on voit les ménagères au marché qui retournent faire leur marché avec ces
avec des
produits faits. En plus, Made in France, mais c'est vrai, pareil. Alors, c'est chouette tout ça. J'ai une caricature ici de Côté qui est parue dans tous les journaux régionaux, mais aussi dans la presse. Nous sommes avec des réfugiés qui sont en train de marcher sur un chemin en très mauvais état, qui portent des sacs, des valises. En tout cas, ils portent leur vie sur leur dos, ces gens-là. Il y en a un en tête de file qui demande à une femme à côté de lui « Dis-moi, penses-tu qu'un terroriste marcherait 2000 km pour commettre un attentat ?» Il y a un excellent papier ce matin d'Alain Dubuc, c'est une collaboration spéciale dans la presse, c'est en exergue des élections fédérales, c'est une chronique et ça s'appelle « Et pendant ce temps, en région ?» Point de suspension. Et il dit « Il y a des enjeux électoraux dont les chefs ne parlent pas beaucoup, qui ne trouvent pas le chemin des médias nationaux, mais qui peuvent prendre beaucoup de place sur le terrain dans les débats régionaux. Et c'est le cas de la gestion de l'offre, le mécanisme qui protège plusieurs productions agricoles comme le lait, les œufs et la volaille, avec un système de quotas de production et une limitation sévère des importations étrangères. En Abitibi, au Saguenay et ailleurs, libéraux, néo-démocrates et surtout bloquistes craignent que le gouvernement conservateur soit tenté d'abandonner ce système pour répondre aux demandes de plusieurs pays au cours des négociations du partenariat transpacifique. Ça, c'est un projet de libre-échange entre les pays d'Amérique et les pays d'Asie. Les conservateurs, dit M. Dubuc, ont beau jurer que ce n'est absolument pas leur intention, cela ne suffira pas pour calmer les inquiétudes du monde agricole. La gestion de l'offre, c'est sacré. Souvenons-nous du tollé contre les fromages européens. En campagne, les partis marchent sur des œufs et n'oseront jamais, quoi qu'ils pensent, briser ce tabou, surtout dans une élection serrée où chaque circonscription compte. C'est dommage. Les régimes de gestion de l'offre datent des années 60. Ils ont été conçus il y a un demi-siècle pour résoudre des problèmes d'il y a un demi-siècle. Mais le monde a changé. Le système de protection agricole, lui, n'a pas bougé, dit Alain Dubuc. Il ne s'agit pas d'abandonner les agriculteurs, mais plutôt de trouver de nouvelles et de meilleures façons de les soutenir. La gestion de l'offre pose une foule de problèmes. D'abord, elle force les gens à payer beaucoup plus cher pour les produits agricoles, ce qui devient une forme de taxation sur des biens essentiels totalement indéfendables. Ensuite, elle a donné naissance à de véritables cartels où ce sont les fédérations agricoles elles-mêmes qui font la loi avec des bureaucraties souvent mesquines. Et enfin, ce système freine le développement de l'agriculture. Il y a quelque chose de très menaçant. C'est la consommation de lait qui est en chute libre, malgré les belles publicités. Ça vous étonne, ça, Stéphanie?
Non, pas du tout. Parce qu'il y a eu beaucoup, justement, aux États-Unis, les vaches, ouais. Le lait qui était contaminé, si on veut. Beaucoup d'études comme quoi que c'était anormal que l'être humain continue à boire du lait ouais. ou à en boire autant. Il y a tellement de choses qui ont sorti. Puis là, il y a toute la vague, justement, des laits de soya, des laits d'amande. Puis bientôt, ça va sortir que le lait de soya peut avoir un impact sur le corps de l'homme. Puis parce que le soya a un impact assez intense sur le corps de l'homme.
Oui.
Donc, tu sais, c'est des vagues, c'est des modes. Ça va aussi à l'alimentation.
Mais je suis même contente que vous le souligniez parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Tu sais, à un moment donné, allons-y avec les fibres. Oui, mais il y a des organismes qui supportent mal les fibres.
Exact.
C'est pareil pour le soya, vous avez raison. À un moment donné, quand on va découvrir que... En tout cas, voilà. Alors oui, donc la consommation de lait est en chute libre malgré les belles publicités, dit M. Dubuc. Pour le Québec, 94,25 litres par personne en 95. Contre 72,91 litres en 2014. C'est beaucoup, hein? C'est 22 litres de moins à peu près par personne. Quoique certains produits comme le yogourt aient la cote. Cette tendance se poursuivra. Oui, mais ça, ils ont la cote grâce à quoi? Grâce à la mode du grec. Hein?
Voilà.
Ça, c'est tout. Bref, voilà. Bon, le temps est mûr pour une très sérieuse discussion, dit M. Dubuc, sur la façon dont nous voulons collectivement assurer l'avenir de l'agriculture, mais... Ce débat n'aura pas lieu pendant la campagne électorale. Alors, un article encore,
oui.
Stéphanie.
Contre les ruminations et la dépression, consommer de la vitamine verte.
Ah oui! Décaisser la vitamine verte, hein, Mathieu? D'après vous, qu'est-ce que c'est la vitamine verte?
La vitamine V.
La vitamine V? Oh!
Aucune idée.
Après la K, la B12, la V1.
Ou canal M. Consommer canal M. Alors, qu'est-ce que la vitamine verte, Stéphanie?
Alors, évidemment, c'est un jeu de mots. Vous allez voir, de plus en plus, on va en parler partout parce que quand Stanford, la sublime université, sort une recherche qui a pris plusieurs années à être montée, toute la planète en parle pendant plusieurs semaines. Alors, évidemment, une équipe de chercheurs de Stanford vient de mettre en évidence que le contact avec les environnements naturels réduit les pensées négatives et obsessions, donc permettrait de ne pas sombrer dans la dépression. Alors, point gagnant pour l'environnement et la nature.
Oui.
Puis, comme notre collègue n'est pas là pour parler de psychologie,
je
lui fais un petit clin d'œil.
Mais oui, Aloïse, merci.
Alors,
on embrasse.
C'est un petit lien entre nos deux types de chroniques.
D'accord.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez Henry David Thoreau, qui est un écrivain américain à la fin des années 1800, a écrit un super beau livre qui s'appelle « Walden ». Qui est une région aux États-Unis, pas loin dans le Maine. Puis lui, il a décidé pendant un an de juste tout laisser tomber, de se bâtir une cabane très, très rudimentaire et de vivre pendant un an avec aucun argent et rien. C'est un roman absolument fantastique à lire.
Je me souviens, je me souvenais plus du nom, mais je me souvenais de l'histoire de cet homme-là. Oui,
ah oui, c'est fantastique. Alors bref, c'est assez rigolo. Donc souvent la littérature, comment elle touche justement des sujets comme ça. Alors évidemment, l'urbanisation n'avait pas encore l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. On parle de 1862, donc c'est une autre chose. Alors, on le sait depuis un moment, être ou se promener seul dans la nature réduit le stress et augmente la sensation de bien-être. Mais sait-on réellement pourquoi et comment? Cela a-t-il à voir avec l'air, le soleil, une propension de l'homme à aimer le vert? Alors, le groupe de chercheurs est parti de l'idée que cet effet bénéfique de la nature sur l'homme pourrait être lié avec la diminution de la rumination. Ruminer, c'est ce qui se produit quand vous êtes vraiment triste, que vous sombrez dans ce sentiment...
Okay.
Oui, c'est oui. Pas ruminer comme...
Non, on a tous pensé à la même chose.
Oui, on a tous pensé à la même chose, mais là, on parle bien du petit hamster, là, qui tourne en rond dans sa petite...
Mais j'aime
petite
ça, je vous oui, emmène oui. à vous poser des questions.
Oui, oui.
Alors, évidemment, c'est ça, ruminer, c'est quand on ne cesse d'avoir des pensées obsessives ou tristes. Et puis, par exemple, à cause d'une rupture amoureuse, d'un licenciement, d'une réflexion mal perçue. Alors, scientifiquement... Cette rumination est une activité accrue dans une région précise du cortex préfrontal.
Ah oui?
Précisément dans une bande étroite dans la partie inférieure du cerveau qui régule les émotions négatives. Si la rumination perdure trop longtemps et ne s'arrête pas, la dépression peut apparaître. Ouais. Alors, dans cette étude, les chercheurs ont observé un groupe de 38 personnes vivant en ville. Après quelques essais préliminaires, la moitié des participants a marché pendant 1h30 à travers une prairie parsemée de chênes et d'arbustes.
Oui, oui.
L'autre moitié a pris une balade le long de El Camino Real, qui est en Californie. Bref, alors, c'est quatre voies au trafic dense.
Ah, OK, d'accord.
Oui, oui.
C'est très, très urbain.
C'est très urbain, c'est ça. Alors, au sortir de la balade, les cobayes sont passés au crible du scanner. Pour les marcheurs en pleine nature, la taille de la zone du cerveau liée aux pensées négatives diminue après une promenade au vert, ce qui n'est pas le cas après une balade en milieu urbain où l'on n'observe aucune amélioration, la zone des ruminations montrant toujours la même activité. À noter que ces bénéfices apparaissent dès la première promenade dans la nature. Alors, il faut savoir qu'en général, la baisse de la rumination est liée à ce qu'on appelle les distractions positives, comme participer à une activité ou discuter longuement avec un ami. À tort, on a tendance à penser qu'une simple marche dans la nature n'offre pas une foule de distractions qui vous éloigneraient des pensées sombres. Kenini. Au contraire, selon ces scientifiques, les milieux naturels sont plus fortifiants, confèrent donc de plus grands avantages psychologiques. Alors, entre fascination, sentiment d'appartenance ou d'être loin de tout, ces paysages participent à rétablir l'équilibre dans notre esprit et en chasser l'obscurité pour y rétablir la lumière.
Ben oui.
La vitamine verte est donc à consommer sans modération.
Sans modération.
Oui.
Mais je comprends pourquoi, quand je vais jouer au golf, ça me calme.
Ben voilà, voilà.
Mais c'est vrai pareil. Pendant 5 heures, moi, je suis dans le vert. Et je dis toujours qu'au-delà, parce que finalement, je ne suis pas sûre que ce soit que d'aller mettre cette petite balle dans le petit trou qui soit vraiment intéressant. Mais je remarque que lorsque je suis très stressée, lorsque j'ai vraiment quelque chose qui me travaille, je veux dire, ça nous arrive à toutes et à tous, bien évidemment, s'il y a un endroit au monde où j'oublie tout, c'est quand je vais marcher au golf. Puis moi j'ai besoin d'avoir un but aussi. Donc c'est que bon, j'ai un petit peu plus de mal à aller marcher dans une prairie pendant 1h30 s'il n'y a pas quelque chose. Alors,
je suis pareil.
Bon, mais alors que quand je joue, au moins j'avance. Et mais c'est peut-être pour ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que si je comprends bien, lorsqu'on prend des antidépresseurs ou au moins des petites pilules du bonheur qui nous aident, ça va directement rejoindre la partie du cortex dont vous parliez. Alors,
exact.
Qui porte un nom, d'ailleurs. Vous l'avez dit tantôt, je ne me souviens plus.
Oups.
Oh, c'est pas grave si vous n'avez pas. Je n'ai pas envie de vous mettre dans l'embarras, mais c'est ça. Donc, finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'aller vous promener dans du verre, ça fera le même effet, sans doute, que d'avaler des pilules qui en enrichissent certains et qui n'ont pas toujours, en plus, les effets escomptés.
Oui, non, c'est ça.
C'est bien ça. Merci beaucoup, Stéphanie. Vous restez avec
plaisir.
Moi. Vous avez peut-être encore quelques petites brèves pour nous?
Oui, bien sûr.
Oh, est formidable. Thank you. Alors, il nous reste quelques minutes pour quelques brèves. Stéphanie, je vous laisse la parole.
Alors, comme promis, je vais vous parler des remorques vélo, écolo et tout et tout. Alors, rapidement, un piano dans un cargo, et oui, c'est un vélo, le boom des vélos cargo. Alors, l'article date du 21 septembre. Lorraine Lavocat du site Internet Reporter, T-E-R-R-E, on adore le jeu.
Ah oui, d'accord.
Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir ou entendre parler de ces vélos qui ont des immenses remorques à l'arrière.
Oui, oui,
qui
oui,
aident
oui.
les gens à déménager. Alors, pour transporter charges et gros colis, pour déménager ou déplacer un piano, on n'a pas forcément besoin d'une auto ou d'une camionnette. Reporter a été voir les férus d'une petite machine qui pourrait ouais. bien révolutionner nos villes, le vélo cargo. Alors, à Rennes, le long de la Loire, à Nantes ou dans les ruelles parisiennes, vous les avez sans doute déjà croisés, casier à l'avant ou remorque à l'arrière, ils pédalent entre les bus et les scooters, les vélos cargo débarquent dans les villes françaises. Moi, à Montréal, j'en ai vu, je vous dirais, 5 cet été. Alors, il y a les familles qui promènent leurs bambins à l'avant d'un triporteur. Il y a les coursiers tirant une carriole croulant de colis. Il y a les vélos café, les vélos plombiers, les vélos glaciers, les vélos coiffeurs. Tous ont un point commun, ils circulent sur une bicyclette à 2 ou 3 roues permettant de transporter des charges importantes de 30 à 300 kilos.
Ah oui, ah oui, ah oui.
Enfin, moi, j'ai hâte de voir les vélos coiffeurs et glaciers, surtout glaciers, je
Mais il y a un vélo
après.
Bonheur ici, hein? Vous Comment? Savez qu'il y a un vélo bonheur ici.
Oh, pour vrai?
Oui, c'est un type qui va distribuer des cadeaux. On fait appel à lui. Ah oui, oui. Écoutez, je n'écoute jamais cette émission-là parce que une fois, je tombe là-dessus. Je trouve ça. Donc, on en a ici aussi.
Quoi, oui, ça commence, ça commence. Mais il faut les encourager. Faut
Exactement.
Qu'il y en ait plus.
Exactement, Stéphanie. Ben, je trouve qu'on s'en est bien sorti à deux quand même.
Ben
hein.
oui, ben
il y
oui.
en avait des choses intéressantes. Hein. Stéphanie, vous avez fait un travail formidable. Vous nous avez appris plein de choses et je vous en remercie beaucoup. J'ai hâte la semaine prochaine. On a hâte aussi de retrouver Louis. Il sera, je l'espère, un petit peu plus en forme pour pouvoir nous accompagner la semaine prochaine. Alors, bonne semaine à vous, Stéphanie.
Bonne semaine à vous aussi.
Et merci d'être une formidable voix de service.